La libre antenne d'Europe 1. Pour dialoguer avec Olivier Delacroix, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21.
75 centimes plus coût du SMS.
23h50 sur Europe 1 et nous accueillons Gisèle au 39 21. Bonsoir Gisèle.
Oui, bonsoir Olivier.
Bonsoir. D'où nous appelez-vous Gisèle ?
Alors je vous appelle du Sud-Ouest.
Du Sud-Ouest. Et quel âge avez-vous ?
J'ai 64 ans.
D'accord. De quoi allez-vous nous parler Gisèle ?
Alors disons que j'ai écrit un ouvrage témoignage.
Oui.
Pour témoigner de ma vie difficile. Cet ouvrage s'appelle « Une nouvelle vie ». Et donc, j'ai souhaité raconter mon histoire afin que ce témoignage permette à certains qui ont des difficultés dans la vie de pouvoir les combattre et de se dire que tout est possible, on peut y arriver. En fait, en 90, j'étais une jeune chef d'entreprise et je pars au Maroc pour traiter un marché de machines agricoles. Là-bas, je subis un grave accident de voiture.
Oui.
Je fais plusieurs tonneaux. Je suis rapatriée dans un hôpital et puis dans une clinique. Et je souffre d'une fracture du crâne, bassin, vertèbre.
Là-bas au Maroc ou vous êtes rapatriée
là-bas
en France ?
Au Maroc.
Oui.
Et je suis rapatriée en France et ensuite immobilisée durant plus de 6 mois. Pendant ce temps, mon ex-époux et tout ça s'occupent de l'entreprise. Et lors de mon retour dans l'entreprise 6 mois plus tard, en fait, je constate des détournements, des comptes courants d'associés qui ont été vidés. Il manque de la marchandise dans les râteliers pour fabriquer les machines.
Oui.
Il y a des salaires à payer et je suis contrainte de déposer le bilan.
Alors, lorsque vous passez 6 mois donc à l'hôpital, pendant ce temps-là, c'est votre ex-mari qui gère votre entreprise.
Tout à fait.
Cette entreprise, en fait, c'est quand même vous fabriquez. Donc, vous me dites qu'il manque des pièces pour fabriquer des machines agricoles. C'est quand même une entreprise assez importante, je suppose.
Oui, c'est une entreprise avec une quarantaine de salariés.
Ah oui.
Disons que bon, le détournement se font de la manière suivante, en fait. On fait rentrer de la marchandise au sein de l'entreprise. La marchandise est transformée par les salariés. Et le soir, en fait, les machines sont sorties de l'entreprise et sont transportées dans un hangar à quelques kilomètres de là, repeintes d'une autre couleur. On change la marque de la machine. Mmh. Et c'est ainsi qu'elles disparaissent. Pour constater, en fait, les détournements, mon associé fait intervenir un contrôle fiscal, un contrôleur, qui constate un grand nombre de mètres de tubes qui ont disparu. Et donc, il y a détournement, abus de biens sociaux. Également, il y a des comptes courants d'associés. Donc, chaque associé laisse dans l'entreprise son argent personnel pour faire prospérer l'entreprise.
Oui.
Et en fait, les comptes courants d'associés sont vidés. Donc, il n'y a plus de trésorerie.
Ce contrôleur-là, c'est une malversation. Il constate qu'il y a eu des vols, mais finalement, il constate quelque chose qui n'existe pas, si j'ai bien compris.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'il constate à l'aide des factures.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en arrivant dans l'entreprise, je demande à l'aide comptable, qui lui aussi était complice, de me montrer les livres de compte, parce que j'étais personnellement comptable, afin de voir s'il y avait des fournisseurs à payer. Et il n'y avait rien. Et en fait, l'aide comptable avait caché dans un tiroir toutes les factures des fournisseurs. Et ensuite, il est parti, il a disparu, il a abandonné son poste. Mais les fournisseurs, sachant que j'étais revenue, m'ont téléphoné afin que je règle ces factures qui étaient très en retard. Et c'est ainsi, en fouillant dans les tiroirs, que j'ai découvert une centaine de factures qui n'avaient pas été enregistrées dans les livres de compte. Et c'est d'après ces factures de rentrée de marchandises et la différence entre les rentrées de marchandises et ce qui restait sur les râteliers que les contrôleurs ont pu constater les détournements.
D'accord.
Voilà. Et donc, en fait, il n'y a plus de trésorerie, il faut payer les salariés. Et de ce fait, il faut déposer le bilan pour que ces salariés puissent continuer à percevoir l'allocation en cas de dépôt de bilan. Donc, je rencontre le mandataire judiciaire et le mandataire judiciaire semble connaître déjà la situation et il me fait une proposition malsaine, je dirais, c'est de devenir son ami.
Son ami, comment ça ?
Son ami, c'est ce qu'il me dit, vous devenez mon ami, sinon je vous lance la brigade financière sur le dos. Donc, je ne suis pas d'accord avec sa proposition et je lui dis que je suis comptable de métier, que j'ai été absente durant 6 mois et que s'il y a eu des détournements, ce n'est pas moi qui les ai provoqués.
Votre ex-mari, dans tout ça, là, vous n'en parlez pas, lui, il disparaît de la circulation.
Lui a disparu. Mon ex-époux a disparu, c'est-à-dire qu'il est parti de l'entreprise.
Oui.
Et il s'est installé à côté et puis ouais, il a disparu totalement. Je n'ai plus de contact avec lui. Les plans de l'entreprise pour fabriquer les machines ont disparu. Certaines machines-outils sont parties également parce qu'ils disposaient des clés. Et en fait, par l'intervention de la gendarmerie, les machines sont ramenées dans l'entreprise.
Dites donc, mais votre ex-mari, c'est un sacré loulou, là. C'est, vous avez été surpris par son... Qu'est-ce qui lui est arrivé, là, d'un seul coup ?
Je pense que, si vous voulez, j'étais majoritaire dans l'entreprise. Il y avait des gens qui étaient intéressés par l'achat de l'entreprise. Ça m'aurait permis d'avoir un beau capital, quand même.
Oui.
Et puis, les associés en auraient eu moins. Mais je pense qu'il craignait beaucoup la perte de son emploi si une entreprise importante intervenait et reprenait l'entreprise existante.
D'accord.
Et je l'ai analysé ainsi, quoi. Donc, en fait, les procédures se poursuivent. Voilà. Pendant 6 ans, je me bats avec un associé pour essayer de récupérer l'argent. Mon bâtiment industriel, qui était en SCI, est vendu aux associés qui ont tout détourné pour un montant de 5 000 euros.
Oh non.
À vil prix. Les machines qui m'appartenaient en propre, parce que j'étais loueur de fonds, sont vendues pour pratiquement rien aux enchères.
Vous êtes dépouillé, quoi.
Je suis totalement dépouillée. Et l'avocat parisien qui me défend, ainsi que l'associé, en fait, introduit environ 40 procédures judiciaires. Et on va jusqu'en Cour européenne de justice.
Alors,
au bout de... Oui.
Aller en Cour européenne de justice, ça sert à quelque chose ?
Dans le cas présent, ça n'a servi à rien.
Oui, j'ai l'impression que c'est un peu comme d'habitude, quoi, mais bon.
Voilà, l'avocat a essayé de délocaliser l'affaire, il n'y est pas parvenu non plus.
Pourquoi il essayait de délocaliser l'affaire ?
Parce qu'il pensait, en fait, que tous les dés étaient pipés d'avance.
D'accord.
Et que tout était organisé, en fait.
Oui, qu'il y avait au sein des mandataires judiciaires, au niveau du tribunal de commerce,
de
et tout
corruption.
Ça, il y avait de la corruption. Mais comme ça arrive souvent, hein, parce que c'est... C'est un petit peu une organisation entre copains, hein, souvent dans les tribunaux de commerce, je ne veux pas dire, mais il y a quand même beaucoup de problèmes, hein, avec ces tribunaux de commerce. Il y a souvent des choses qui se font et qui sont un peu curieuses. On va continuer cette discussion, Gisèle. On laisse passer le journal de la rédaction et puis on se retrouve dans quelques minutes, d'accord ?
Très bien.
À tout de suite.
Très bien. À tout de suite.
Europe 1. La Libre Antenne. Olivier Delacroix.
Passé de 7 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne. Vous pouvez composer le 39-21, 50 centimes d'euros la minute, puisqu'il nous reste 52 minutes, allez, puisqu'il est minuit 8 maintenant. Ne rechignons pas sur les secondes et sur les minutes. Vous pouvez continuer à nous appeler et peut-être aurai-je le plaisir d'échanger avec vous tout à l'heure ou bien demain, chers amis, puisque vous savez que vous pouvez toujours... parler à Florian et à Julia qui vous attendent dans cette régie. Et peut-être que nous échangerons ce soir ou demain. Donc, nous sommes avec Gisèle pour le moment. Gisèle qui nous explique, après un accident au Maroc qui l'a maintenu 6 mois hospitalisé, eh bien, avoir été victime des malversations de son ex-mari et de quelques associés pour enfin déposer le bilan de son entreprise. Vous me disiez avoir été jusqu'à la Cour européenne, Gisèle, mais ça n'a servi à rien. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'entends parler de la Cour européenne, enfin, la Cour européenne peut condamner même et que ça n'a aucune incidence en fait.
Non, j'ai l'impression que ça n'a aucune incidence. Et bon, disons qu'on trouve toujours les mêmes, je dirais, au niveau judiciaire. Je dirais qu'au niveau de la magistrature, il y a une seule école de la magistrature en France. Et je dirais que quand les chiens sont lancés contre vous, en fait, ils se battent tous contre vous, ils vous poursuivent tous. Voilà, et c'est très difficile de faire revenir sur un jugement. C'est très difficile, une fois que ça a été jugé, de repartir en arrière.
Alors,
c'est difficile pour un juge de se déjuger. Quoi.
Oui.
Voilà.
Oui. Vous avez donc, vous me l'avez dit au début de votre intervention, écrit un livre paru aux éditions de l'Estuaire qui s'appelle « Une nouvelle vie ». Parce qu'après tout ça, est-ce que vous avez perdu, vous avez tout perdu ou vous avez pu conserver votre maison ou quelques biens ?
J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Donc j'ai été mise en examen pour abus de biens sociaux. J'ai eu des difficultés ainsi que mon associé à trouver un avocat dans la région parce que en fait, ils étaient tous plus ou moins au courant de l'affaire. Seul un avocat parisien a pris notre défense parce que je pense que ça aurait pu aller jusqu'à nous incarcérer à la place des autres.
Ouh là là.
Voilà.
Ah oui, vous avez frôlé l'incarcération carrément ?
Et puis j'ai été mise en examen pour abus de biens sociaux.
Oui.
Et interdiction de sortir du territoire. Et cela durant 6 ans. Au bout de 6 années d'enquête, en fait, on a reçu une ordonnance de non-lieu. Et par la suite, une belle lettre du mandataire judiciaire. Il s'est adressé à mon associé, ne voulant plus me parler.
Le fameux, qui vous demandait d'être son ami ?
Tout à fait.
Mais ça a été évoqué, vous l'avez évoqué devant les juges, vous l'avez, parce que c'est quand même très grave.
Ça a été évoqué devant les juges, mais je pense qu'à l'époque, c'était une pratique courante, le droit du cuissage, en fait.
Parce que ce mandataire judiciaire, est-ce qu'il a comment je vais vous exprimer ça ? Est-ce que c'est un mandataire du tribunal de commerce ou est-ce qu'il a des notions de droit ? Enfin, en tout cas, il est comme un juge ou comme un procureur ?
Ils ont des notions de droit. Ce sont des gens qui ont fait du droit. Mais ce sont des gens qui achètent une charge, en fait.
Ils sont issus de la société civile.
Ce sont des gens des tribunaux de commerce.
Oui, ce sont des gens du tribunal de commerce. Donc on peut très bien avoir un mandataire judiciaire qui est boucher, charcuterie, traiteur ou chef d'entreprise.
Ah non, pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Non, il faut qu'il ait quand même les études nécessaires pour pratiquer ce
d'accord,
métier.
D'accord, ok.
Obligatoirement. Par contre, tous les juges des tribunaux de commerce sont des commerçants et artisans.
Oui.
Des commerçants, donc voilà. Ils jugent sans forcément avoir des notions de droit.
D'où des histoires ici et là en France, dans divers tribunaux de commerce, de bonne entente entre bons amis.
Tout à fait, tout à fait. Bon. Mais il faut dire aussi qu'il existe certains greffiers, certains mandataires honnêtes, ça existe.
Mais il n'avait pas une réputation qui le précédait, cet homme-là, quand même, parce que vous n'êtes pas la première, sans doute, à qui il est proposé ses services.
Mais disons c'était un homme qui démarrait dans la profession. Et donc, je pense que si j'avais porté plainte, peut-être certaines personnes se seraient manifestées.
Mmh. Il avait une drôle de moralité.
Comme il démarrait dans la profession.
Il est toujours mandataire aujourd'hui ?
Il est toujours mandataire aujourd'hui.
Eh ben...
C'est la raison pour laquelle j'écris sous pseudonyme.
Oui.
Voilà. Et que dans mon livre, je n'ai pas cité les noms des personnes en question. Parce que,
mais
ce sont des gens
puissants. C'est en Haute-Aquitaine, là, qu'il exerce ?
Il exerce dans le sud-ouest. Voilà, dans le Sud-Ouest. Oui, tout à fait. Nouvelle-Aquitaine.
En Nouvelle-Aquitaine, bah, c'est plutôt... Ça soulève quand même un certain malaise que ce que vous nous racontez, parce que si cet homme exerce toujours, on peut, parce que des faillites, des abus de biens sociaux, en tout cas des accusations de biens sociaux, en tout cas des histoires comme celles que vous avez vécues, il y en a, malheureusement, et savoir qu'il y a un mandataire judiciaire qui se comporte comme un sagouin comme ça, c'est pas très rassurant.
Non, tout à fait. Mais bon, je pense qu'il y en a d'autres et qu'il y a eu d'autres affaires de ce type dans le Sud-Ouest. Donc voilà, il y en a eu d'autres.
Bon, en tout cas, vous avez bénéficié d'un non-lieu, ce qui est plutôt...
J'ai bénéficié d'un non-lieu et donc de cette belle lettre qui me promettait indemnisation du préjudice subi. Voilà.
D'accord, parce que le non-lieu s'accompagnait d'une promesse de remboursement.
Mais c'est-à-dire que Le non-lieu, c'était le juge d'instruction, donc l'État. Et la lettre, c'était celle du mandataire qui promettait de poursuivre les coupables et de y demander de contacter son avocat afin que le procureur fasse le nécessaire pour les faire condamner et afin que je sois indemnisée.
Est-ce que quelque chose a été dans ce sens-là ?
Rien du tout. Disons que je pense que ça a été pour enterrer l'affaire, afin que l'on baisse les bras et qu'on se dise « bon, maintenant, on va pouvoir retravailler tranquillement. On n'a plus d'inquiétude à se faire. Tout va fonctionner. On va être remboursé, indemnisé, peut-être pouvoir recréer quelque chose. » Voilà. Et donc, ça m'a permis, disons, de retrouver un emploi d'attaché de direction. Et mais malheureusement, les créanciers ont commencé à me poursuivre.
Eh oui.
C'est-à-dire que j'étais mandataire social, PDG, caution au niveau personnel pour tous les emprunts des machines-outils qui avaient été contractés pour l'entreprise. Et le fait de ne pas être indemnisé, en fait, maintenant, les banques me poursuivaient en paiement des cautions pour les machines qui n'avaient pas été payées suite au dépôt de bilan. Voilà. Et donc là, je recevais des coups de fil dans l'entreprise où je travaillais, de créanciers qui faisaient du chantage. Bon, je me sentais très mal à l'aise par rapport à l'employeur, évidemment. Et la moitié de mon salaire passait dans ces dettes à payer. Pour pouvoir, j'avais trouvé des arrangements avec chaque créancier pour payer des sommes, mais comme il y en avait beaucoup, bien la moitié de mon salaire passait paiement de ces cautions.
Vous aviez des enfants avec cet homme, votre ex-mari ?
J'avais deux enfants avec cet homme, oui, tout à fait.
Comment vos enfants ont-ils réagi à tout ça ?
Eh bien, j'ai une fille qui, à l'âge de 14 ans, est partie vers l'argent, je veux dire. Et l'autre, mon fils, en fait, lui a subi de son père. C'est-à-dire que lorsque j'ai divorcé, il m'a appris que son père le maltraitait. Et mon fils a subi de la maltraitance alors que je l'ignorais. Il était très, très mal au niveau scolaire. Et je l'avais amené chez un psychanalyste qui avait détecté que cet enfant avait des problèmes relationnels avec son père.
Oui.
Et il m'avait conseillé de le laisser avec son père lorsque j'allais faire les courses, pour que les relations s'améliorent. Et en fait, l'enfant hurlait chaque fois que je partais, mais je ne comprenais pas pourquoi. Quand je revenais, bon, je constatais qu'il avait des vêtements déchirés, qu'il avait des bleus, mais l'enfant me disait « je me suis cognée dans les machines de l'entreprise, etc. » Et quand l'enfant a appris que je demandais le divorce, il m'a demandé de ne plus repartir chez son père. Et là, il m'a dévoilé qu'il le traînait par les cheveux sous les machines, qu'il lui était arrivé de le mettre dans un congélateur de 600 litres pendant quelques minutes pour le punir. Et il le menaçait que s'il me disait quelque chose, en fait, eh bien, il allait encore en prendre plus.
J'espère que quand il sera
en âge... Donc l'enfant était obligé de se taire.
Quand il sera en âge, il pourra aller demander, quand il sera en âge et en corpulence, j'espère qu'il ira demander 2-3 comptes à son âne de père. Quand même.
Alors, il est en âge et en corpulence, puisqu'il a 43 ans.
D'accord.
Il est rentré à l'âge de 17 ans dans l'armée de l'air. Il a fait 17 ans de service. Et puis, il faisait des cauchemars chaque nuit. Donc, il a été suivi par un psychothérapeute pendant un an pour ses cauchemars suite aux malversations de son père, en fait, suite à la maltraitance. Et là, on lui a recommandé de faire un procès à son père ou de l'ignorer à jamais. Et mon fils m'a téléphoné en me disant, qu'est-ce que je fais ? Je la signe ou bien ? Je lui ai dit, non, ne la signe pas. Ne la signe pas parce que ton père a beaucoup d'argent. Et avec l'argent, tout s'achète. Donc, si tu assignes ton père
tu vas
et
perdre.
Que tu n'as pas gain de cause,
oui.
Tu seras encore plus blessé dans ta vie. Et donc, poursuis ton chemin et ignore-le. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Donc, il a construit sa vie. Il a une petite fille. Et tout va très bien dans sa vie.
Et bah,
voilà,
mieux,
il s'est reconstruit.
Tant mieux. Et votre fille, vous n'avez jamais revu votre fille, du coup ?
J'ai revu ma fille à 2 ou 3 reprises, mais ma fille, si vous voulez, a eu un comportement qui m'a blessée. C'est-à-dire qu'elle a essayé de revenir vers moi. Et elle ne m'a pas informée de son mariage, de la naissance de ses 2 enfants, parce qu'elle était très proche de son père.
Oui.
Et un jour, elle m'a dit, est-ce que tu veux voir mes petits, mes enfants ? Je lui ai dit, évidemment que je veux les voir. Je vais te les montrer par la webcam. J'ai envoyé des cadeaux, c'était juste avant Noël, aux enfants, chez la cousine. Mm-hmm. Et j'ai vu les enfants à la webcam. Et elle leur a dit, je vous présente Nanou, une copine.
Oh.
Parce que je pense qu'elle ne souhaitait pas que son père sache qu'ils avaient vu leur grand-mère.
Ouais.
Et sachant que c'était une relation malsaine,
formidable,
j'ai préféré couper les ponts. De manière à ce que ça ne me détruise pas. Parce que suite à tout ce qui m'est arrivé quand même, j'ai fait un AVC, j'ai développé un cancer,
oui, ma pauvre,
etc. Ouais. Donc bon, je pense que tout ce qu'on subit émotionnellement provoque des dégâts au niveau corporel.
Oui, ben oui, c'est... Souvent, le corps est le réceptacle de tous ces ennuis, là, du stress.
Tout à fait.
Ouais. Bon, aujourd'hui, vous allez mieux. Alors,
racontez-moi ça. Aujourd'hui, voilà, je vais mieux. En 2019, j'ai fini de payer toutes les dettes occasionnées par l'entreprise. J'ai réglé tout ce passif. Voilà, je me suis reconstruite. J'ai trouvé un travail intéressant par la suite dans la fonction publique territoriale. Je me suis occupée des entreprises pour les aider à se développer et au niveau de l'innovation également. J'ai retrouvé un boulot aussi là où j'habite aujourd'hui, aussi dans la fonction publique territoriale. J'ai pris ma retraite à 62 ans. J'avais appris entre-temps la naturopathie et l'hypnose, donc je le pratique pour aider les personnes. Et j'ai refait ma vie avec quelqu'un aussi qui avait souffert et qui m'apporte beaucoup de soutien aujourd'hui.
Bon, très bien, très bien.
Voilà.
Et vous suivez votre route aujourd'hui ?
Je suis ma route, voilà, mes enfants vont très bien. Et puis j'ai fini de rembourser, bon, je touche une retraite. Donc, pour moi, tout va pour le mieux par rapport à ce que j'ai vécu. Et donc, pour moi, c'est un message d'espoir, en fait, pour toutes les personnes qui ont subi des difficultés dans leur vie, en leur disant, mais il faut continuer à se battre, parce qu'en fait, on arrive toujours, rien n'est perdu, on y arrive. Et je pense que quand on a des enfants, on est obligé de se battre pour eux. On doit continuer à avancer, en fait.
Complètement, complètement. Et bon, c'est facile à dire, hein, de dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, mais bon, vous en êtes l'exemple, ma chère Gisèle. Vous en êtes l'exemple.
Tout
merci pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Je rappelle que votre livre s'appelle...
Une nouvelle vie.
Une nouvelle vie aux éditions de l'Estuaire. Et que si vous avez envie de vous le procurer, toutes les coordonnées de cet ouvrage seront sur notre groupe Facebook. Merci Gisèle.
Voilà, merci beaucoup à vous.
On vous embrasse bien fort. Bonne soirée, au revoir.
Moi aussi, je vous embrasse. Bonne soirée, au revoir.